BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel.
Bonsoir, bienvenue dans Tech & Co. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h30 avec beaucoup de sujets. Encore une fois, on aura beaucoup parlé des sujets américains, des sujets chinois. Tiens, TikTok qui pourrait être interdit aux États-Unis. C'est une loi qui était en train d'être votée par le Congrès américain. On va en parler avec nos débriefeurs. On parlera aussi ce soir de Apple qui vient de racheter une start-up française qu'on ne connaissait pas bien, Datacalab. Et pour cause, elle avait pivoté. Elle faisait de la reconnaissance lorsqu'on portait un masque dans le métro à l'époque du Covid, et puis elle a bifurqué, elle a pivoté vers les algorithmes de compression, et puis voilà, ils ont eu du mal à s'en sortir, ils se sont rapprochés d'Apple. On essaiera d'expliquer pourquoi, qu'est-ce qui peut intéresser Apple. Et puis autre sujet dans la deuxième demi-heure, on parlera de Datarmor, ça vous avoue quoi, la Bretagne? Eh bien oui, Ifremer est en train de renouveler son data center, surtout son supercalculateur, pour aller explorer le fond des mers. Vous savez, on connaît pas trop mal l'espace, on connaît très peu le fond des mers. Et bien on verra tout ça avec notre invité tout à l'heure, et puis tout de suite on retrouve nos débriefeurs.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on est avec nos débriefeurs ce soir, alors ici et au loin. On salue d'ailleurs un autre qui est au loin aussi, c'est François Sorel, qui me cède son fauteuil pour quelques jours. Bonsoir Yves Maître.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, operating partner chez Jolt Capital, consultant, ancien PDG de HTC, longue carrière aussi chez Orange, voilà, dans des télécoms. On aura l'occasion de parler de tout ça. Didier Sens, journaliste. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Depuis quelques années aussi, journaliste, oui, dans la tech, spécialiste dans la tech avec une analyse à l'heure très fine de tous nos sujets. Et puis à distance, c'est Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Frédéric.
À Montréal, journaliste et animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Justement, avant de prendre l'antenne, on regardait un peu la décoration de ton bureau avec du NAS Batag, un vieux téléphone à cadran là, qui nous rappelle notre jeunesse, voilà, parmi tout ce qui t'entoure ce soir. Alors ce soir, on va commencer, on va parler un peu beaucoup de Chine et d'États-Unis avec ce nouveau projet de loi américain. Alors vous avez entendu, il y a eu beaucoup de choses qui ont été votées par le Congrès américain, qui sont en cours de vote par le Congrès américain autour des budgets débloqués, notamment pour l'Irak, pour Taïwan, pour Israël. Et puis dans tout ça, il y a aussi dans tout ce package, les États-Unis lancent un ultimatum à TikTok. Je vous propose d'écouter les explications d'Anthony Morel et puis on va revenir tout de suite dessus avec nos experts.
Parce que si ce texte est adopté, ça va forcer ByteDance, la maison mère de TikTok, à vendre son application dans les 12 mois. S'ils le font pas, elle sera purement et simplement supprimée, interdite des App Store, que ce soit chez Apple ou chez Android. Le vote de ce week-end doit encore passer devant le Sénat cette semaine. Il doit être promulgué aussi par Joe Biden, mais il a déjà dit qu'il y était favorable. Donc, ouais, a priori, c'est comme si c'était fait. Donc, c'est un vrai gros coup de pression de la part des parlementaires américains qui accusent toujours TikTok d'espionner les utilisateurs américains pour le compte de Pékin. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la parano? Ce qui est sûr quand on écoute les experts en sécurité, c'est que oui, TikTok, c'est un aspirateur à données. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on télécharge l'application, elle a accès à absolument tout, y compris au micro et à la caméra du smartphone. Enfin, on peut le refuser, mais on ne peut plus faire de vidéos sur TikTok, ce qui tue un petit peu l'intérêt d'avoir l'application. Après, la question, c'est est-ce que ces données sont effectivement envoyées et exploitées par Pékin? Là, il n'y a aucune certitude, mais le discours de l'entreprise est plutôt contradictoire. Souvent, ils démentent formellement, mais parfois, comme en 2022, ils reconnaissent officiellement que les données des utilisateurs peuvent être consultées selon les besoins du service par des employés en Chine, ce qui n'est pas forcément très rassurant. Alors la plateforme a réagi en expliquant que son interdiction violerait la liberté d'expression de 170 millions d'Américains, ravagerait, dit TikTok, 7 millions d'entreprises, toutes celles, les restaurants, les magasins qui utilisent l'application pour faire leur promotion. Intéressant aussi de voir qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre de voix, comme celle d'Elon Musk, qui s'oppose à ce texte au nom de la liberté d'expression.
C'est vrai qu'il a tout dit, Anthony Morel, notre spécialiste tech aussi, que vous retrouvez tous les matins en matinale. Ça fait un petit moment que la pression monte. On se souvient que même de l'époque de Donald Trump, on avait proposé à des Oracle, à des Microsoft de reprendre la partie américaine de TikTok. Là, on sent que ça sent le roussi, Didier.
Oui, parce que là, c'est le Congrès qui s'en mêle. Il y a quelques années, Trump avait commencé à montrer les gros bras, et puis ça avait fini en eau de boudin parce qu'il y a eu des pressions de la part des entreprises qui utilisaient TikTok, des utilisateurs qui étaient mécontents. Mais là, c'est le Congrès qui s'y colle. Et apparemment, si c'est, le texte est adopté, ça va finir sur le bureau de Biden. Et Biden, il est plutôt pour l'interdiction.
Oui. En même fait, si c'est un utilisateur, hein, il le dit.
Oui, mais il y a le vrai problème qu'on a avec ces entreprises chinoises, c'est que on est jamais rassuré. Il y a eu le problème, le précédent avec Huawei. Huawei a été interdit aux États-Unis parce que soupçonné aussi d'utiliser des applications
d'espionnage. Rapatrier des données en Chine.
Et surtout avec leur matériel de réseau, 5G, etc. Donc, c'est jamais clair ce qui se passe avec les entreprises chinoises. Les Américains demandent d'avoir accès au code source. Le peu qu'on en a vu, c'est qu'il y avait effectivement des accès à des serveurs bizarroïdes, non identifiés. Et puis, les conditions d'utilisation de TikTok, on les connaît. Hein, c'est-à-dire qu'on donne son âme, son slip et le nom de son chien quand on s'inscrit sur TikTok.
Même on donne des infos sans le savoir. C'est
voilà.
Ça qui est pire.
Ce qui ne dérange pas quand il s'agit de Facebook ou de Google, hein, vous remarquerez, mais là, ça dérange parce que c'est une entreprise chinoise. Donc, c'est un peu le problème. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ben, effectivement, ce que disait Anthony, si le texte passe, l'entreprise va être vendue à un Microsoft, un Oracle ou à je ne sais pas
on
qui.
On rappelle, hein, aujourd'hui, elle est la propriété de ByteDance, d'un groupe chinois tentaculaire aussi, qui a plein de...
Qui, d'ailleurs, c'est assez intéressant, ne fournit pas TikTok sur le marché chinois, c'est-à-dire TikTok est interdit en Chine, ils ont un autre réseau parallèle qui n'a pas grand-chose à voir. Donc l'entreprise sera soit vendue, soit elle sera purement et simplement interdite, ce qui à mon avis est...
Oui, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a le fondement légal, donc on dit qu'il y a de l'espionnage, il y a un processus politique, derrière, qui a enclenché avec le Congrès, et puis les TikTok et ses défenseurs pourraient plaider contre une interdiction fondée sur des arguments liberté d'expression, d'autres droits. Il y a des défis techniques aussi, parce qu'on ne ferme pas comme ça une application avec les VPN, et puis il y a le contexte international, hein, on est encore Chine-US, Yves.
Non mais, enfin, c'est la guerre. Je veux dire, on est dans une guerre matérielle, on le sait, on le voit en Ukraine, on le voit, etc. Et c'est la guerre économique. Donc, quand il y a la guerre, il y a la guerre. Donc là, il y a une guerre entre la Chine, guerre digitale entre la Chine, il y a du cyberespionnage, et puis tous les coups sont permis. Et là, après que les États-Unis soient attaqués à Huawei de manière extrêmement violente, les États-Unis soient attaqués à DJI, les drones, de manière extrêmement violente, maintenant ils s'attaquent à TikTok de manière extrêmement violente. Et de l'autre côté, il y a aussi les interdictions, c'est-à-dire que les Chinois veulent interdire WhatsApp en Chine.
Ils ont demandé à Apple de l'enlever de son App Store.
Donc on est dans une guerre. Il faut regarder les choses. Enfin, c'est une guerre. Et comme tous les coups sont permis, allons-y gaiement. Maintenant, est-ce que cette guerre va résoudre les problèmes? Est-ce qu'on est en train d'accentuer les choses? Est-ce qu'on est en train d'aller vers un monde meilleur? Ou est-ce qu'on est en train de cliver les choses? Alors, on parle d'espionnage. Ok, alors parlons d'espionnage. La Chine espionne? Oui, la Chine espionne. Les États-Unis espionnent? Oui, les États-Unis espionnent. La France espionne? Oui, la France espionne. Et je l'espère, tous les pays espionnent. Est-ce qu'il faut se laisser espionner? Non, il ne faut pas se laisser espionner. Maintenant, quand je regarde moi, l'espionnage qui m'importe, c'est pas de savoir si mon voisin regarde une vidéo de TikTok sur le football ou si une vidéo de TikTok à faire la cuisine, j'en ai pas grand chose à faire. Et j'imagine que Xi Jinping, d'ailleurs c'est rigolo parce que Xi Jinping vient d'annoncer, enfin ses équipes, pas lui directement, vient d'annoncer que c'était une violation de la liberté individuelle.
Oui.
La Chine qui se positionne comme le champ de la liberté individuelle. Alors là, on atteint des subtilités qui m'échappent totalement. Hein, ok, on est d'accord. Mais bon, si on parle d'espionnage, il y a quelque chose qui part de la TikTok, mais on reviendra à TikTok, c'est LinkedIn. Parce que cette société, tout le monde donne son CV, ses informations, les informations de son entreprise.
C'est bien avec ses...
sur LinkedIn. Ouais. Et donc, Microsoft, puisque ça appartient à Microsoft, a toutes les infos d'à peu près toutes les entreprises et tous les hommes du monde. Donc, quand on parle d'espionnage, volontaire, involontaire, je veux dire, comme on le disait, tout le monde espionne.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que
sur les réseaux sociaux,
il y aura un peu de lobbying de la part d'Américains, de Google, par exemple, qui voient.
Oui, parce qu'il y a le bon espionnage, c'est celui pour la nation, pour la patrie, des Américains.
C'est la guerre.
Et le mauvais espionnage, c'est celui des autres.
Ouais, voilà.
c'est la guerre. Donc il y a les bons d'un côté, pour celui qui est considéré de bon, et les mauvais de l'autre. Et donc ils se tapent dessus. Bon, les arguments sont fallacieux. C'est un conflit, il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est pas l'espionnage de Madame Michu qui importe, tout le monde le sait bien. C'est les argents qui sont en jeu, c'est les influences, c'est l'influence sur la démocratie. En fait, c'est la radicalisation des gens qui utilisent les réseaux sociaux. Ouais. Le problème, il est là. C'est-à-dire que des gouvernements, des lobbyistes radicalisent via des réseaux sociaux des utilisateurs. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais.
Avec on peut même aller plus loin. Il y a même un côté abrutissement de ces.
Oui, alors l'abrutissement n'a pas eu besoin des réseaux sociaux. Oui,
il y a aussi ce contexte où voilà, on se nourrit, on passe 4 heures sur ces applications-là et finalement, on n'en a rien tiré, si ce n'est passé du temps. Bruno, depuis Montréal, alors quel est ton regard outre-Atlantique de justement cette interdiction? On rappelle, il y a déjà des pays qui ont déjà interdit. Il y a l'Inde, il y a quelques pays qui ont interdit TikTok sur leur territoire. Le Népal.
Oui, tout à fait. Et donc, les États-Unis ne seraient pas le premier pays à le faire. Mais de l'autre côté, puis j'aimais bien ce que Yves disait, parce que ça ramenait à l'avant-plan toute l'histoire stratégique derrière ça. À l'époque, quand Donald Trump a tiré la première salve, faut se rappeler du contexte. Il y avait Huawei qui était aussi dans le décor, mais on sentait bien que Donald Trump voulait montrer qu'il était capable de faire de la pression sur la Chine sans nécessairement tirer du canon. Et ça avait fonctionné. Bon, puis rapidement après, on avait oublié, ça s'est tassé. Mais dans l'entrefait, il y a quand même les services secrets puis les différentes agences américaines qui ont dit oui, il y a quand même un problème de ce côté-là. Donc, il y a l'aspect sécurité de l'État qui, évidemment, aide et nourrit ces poursuites et cette réglementation qui est devant les chambres au Congrès américain. Mais moi, j'ai bien hâte de voir, parce qu'il y a énormément de lobbies à l'heure actuelle qui sont en train de faire pression pour que ça ne passe pas au vote. Alors, si ça passe, bien évidemment, c'est Biden qui aura beau jeu. Et son administration, quand on regarde ça, à l'heure actuelle, toutes les agences américaines, toutes les agences, j'exagère, mais bon nombre d'agences qui ont à contrôler ce qui se fait en ligne, pensez au FCC, pensez à d'autres, le ministère de la Justice, ils sont en train présentement d'avoir dans le collimateur Meta, Apple, Google, Microsoft, ils ont un œil là-dessus, et puis Amazon aussi, et donc ils sont tous en train de les enquêter. Et donc, les gens de la tech, même aux États-Unis, se sentent un peu les coudes serrés. Alors, vous imaginez qu'un Chinois, lui, peut craindre le pire. Et effectivement, il va falloir voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va être décidé. Mais il y a énormément de jeux politiques, économiques là-dedans, avant tout, avant que ce soit une question là, de sécurité nationale.
Oui, parce qu'il y a d'ailleurs, je vais relier ces deux news, c'est toi, Didier, qui l'avais repéré, c'est les ados font de moins en moins leurs recherches sur Google, vont davantage sur TikTok, alors pour différentes raisons. Parce qu'il y a de la vidéo, parce que c'est plus pertinent. C'est-à-dire, on va aller chercher un restaurant, on ne va plus aller sur Google dire tiens, je suis dans telle ville, voilà un restaurant. On va aller sur TikTok et voir un peu ce que mes amis, ce que mon entourage, ce que mon écosystème recommande comme restaurant. Et ça se voit de plus en plus. Alors, ils perdaient un peu, même si les IA génératives ne sont pas des moteurs de recherche, mais ils perdaient un peu de trafic, et là, ils en perdent encore plus.
Alors, c'est un phénomène culturel, effectivement. Mm-hmm. C'est les ados qui ont été biberonnés au réseau depuis qu'ils sont nés. Donc, pour eux, le réflexe, c'est effectivement de chercher sur le réseau qu'ils consultent, c'est-à-dire TikTok ou YouTube. Alors, faut pas s'alarmer, on est
c'est pas un virage massif,
non,
mais quand même.
On en est
c'est des petits signaux faibles.
Donc c'est une agence qui s'appelle Axios qui a fait cette étude. 46% des 18-24 ans commencent leur recherche sur Google, donc il en reste quand même une grande majorité. Le reste, c'est 21% sur TikTok et 5% sur YouTube. Alors, ça se comprend. Il y a des très bons tutos sur YouTube, et effectivement, on a besoin de savoir comment dépanner son robinet de salle de bain. On va aller chercher sur YouTube la vidéo correspondante. Il y a des astuces, ce qu'on appelle le life hacking sur TikTok, où ils expliquent comment transformer, je sais pas quoi, une bouteille d'eau en piège anti-moustique ou des trucs comme ça. Enfin, donc toutes ces choses-là sont plus facilement accessibles quand on va les chercher dans le moteur de recherche local de Google. Ou de YouTube ou de TikTok que si on passe par Google. Et puis, l'autre phénomène.
Ça peut expliquer une action un peu de lobbying qu'il pourrait y avoir des Google et consorts au niveau américain notamment.
Oui, mais alors le fait est que Google en ce moment n'est pas dans une très bonne position. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les résultats sont de moins en moins pertinents, mm-hmm. qu'il y a de plus en plus de résultats sponsorisés, que c'est un peu le foutoir. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si Google cherche une autre stratégie vers l'IA, hein, avec Gemini, mm-hmm. avec d'autres pistes comme ça. C'est parce que on arrive peut-être en bout de souffle sur le paradigme du moteur de recherche tel qu'on l'a connu il y a des années. Bon, Google fait encore 90%.
Oui. On s'inquiète pas trop pour eux pour l'instant, mais c'est ces petits signaux faibles que l'on regarde toujours.
Et je pense que
ça va aller très vite.
Et je pense que ça va s'accentuer encore davantage au fur et à mesure qu'il y a toute cette génération de jeunes qui arrivent et qui sont formatés pour aller chercher des contenus sur les réseaux qu'ils connaissent le mieux.
Yves, qu'est-ce qui peut se passer là maintenant pour TikTok? Enfin, aux États-Unis. Hein. Après, il peut y avoir des répercussions, bien entendu, en Europe.
D'abord, on est en campagne électorale. Mm-hmm. Hein. Donc, en campagne électorale, les choses sont toujours plus exacerbées que dans un flux normal. Et après, la législation prend du temps. Donc, on va voir si ça passe au vote au Sénat, d'abord. Hein. Comme Bruno le disait, c'est pas sûr, c'est pas gagné. Si ça passe au vote au Sénat, ce sera gagné. Parce que Biden va promulguer la loi. Après, quelles vont être les défenses de TikTok? J'en sais rien, je connais pas suffisamment la législation américaine.
Oui, parce qu'il faudrait que Google Play le retire, cette application soit retirée de Google Play et de l'App Store d'Apple. Donc, voilà, ça ferait des pressions aussi entre les sociétés.
Il n'y a pas de précédent, je suis en train de chercher, Bruno, peut-être que tu as des idées en tête, mais il n'y a pas de précédent comme ça d'un service de communication, on va dire, pour pas dire réseau social, qui du jour au lendemain était interdit. Ça, c'est
Wish, non ? Wish, enfin en Europe, je crois qu'il avait été interdit à l'époque, qui vendait des produits.
Non, je ne sais pas souvenir qu'il était interdit, Wish. Je crois qu'il est.
Juste été.
Il a chuté de sa belle mort, parce que c'est un autre Chinois qui l'a remplacé. Je ne sais pas, Bruno, sur.
Bruno ?
Aux États-Unis, ça va être une première meilleure dans le monde. Puis on le disait tout à l'heure, il y a du côté de l'Inde, notamment, elle a été interdite. Et donc, les joueurs qui sont présents et qui gèrent les boutiques doivent retirer. Et à l'inverse, je vous dirais, comme il se fait déjà depuis longtemps en Chine ou en Russie, il y a des applications qui ne sont pas disponibles localement, mm-hmm. tout simplement parce que... Et ça, c'est en utilisant différentes technologies. Là, si l'entrepreneur ne les retire pas de son propre... de sa propre façon, c'est les gestionnaires des boutiques qui le font pour être en règle avec les gouvernements. Ça se fait, mais aux États-Unis, ça va vraiment être une première. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est délicat comme décision.
Oui, et puis là, on parle des gestionnaires d'applications, mais il y a tous ceux qui vivent. Alors, il y a des Coca-Cola et tout ça qui vivent de la pub sur TikTok, enfin, qui mettent de la pub sur TikTok, mais eux font de la pub ailleurs.
Il y a les influenceurs, il y a les marques,
Il y a quand même business derrière, absolument, ouais. Avec des gens purement américains.
Non, je pense que c'est pas... d'abord, encore une fois, c'est une guerre. Ouais. Il y a aussi une guerre politique aux États-Unis entre les républicains et démocrates qui est exacerbée à quelques mois la présidentielle. Elon Musk est contre, Donald Trump est contre cette interdiction. Il faut savoir que un des grands sponsors de la campagne électorale de Donald Trump est aussi actionnaire de TikTok, okay, de ByteDance en fait, très exactement. Donc on voit que c'est quand même extrêmement compliqué. Bon,
c'est pour ça que je pense pas que l'interdiction pure et simple soit une voie envisageable.
Je crois pas que ce soit une solution. Ouais. Je crois qu'il va y avoir des tractations et des négociations. Bon, maintenant, est-ce que c'est la bonne bataille économique que doivent mener les Américains contre la Chine? J'ai quand même des doutes parce que je suis pas sûr que focusser sur ce sujet-là soit le meilleur moyen économiquement de faire plier la Chine, parce que TikTok,
la réponse a été immédiate, hein, le fait que la Chine ait désactivé WhatsApp et Threads de l'Apple Store, c'est pas un hasard.
Et là, je vous conseille d'aller voir ça. C'est l'une des secrétaires d'État, Gina Raimondo, là, aux États-Unis, au commerce américain, qui, dans une interview qu'elle a donnée une grande émission sur
60 minutes,
voilà, où elle dit nous sommes des années en avance sur ce que... Donc elle on l'interrogeait sur le fait que Huawei avait sorti son Mate 60, là, son dernier né, avec des puces
7
plus,
nano.
Plus pointu que ce qu'on imaginait, ce dont ils disposaient. Et elle dit attendez, allez regarder un peu d'un peu plus près. C'est quand même pas du niveau de ce que l'on fait aujourd'hui.
Elle veut pas dire le contraire d'un autre côté.
Nous avons surpassé la Chine en termes d'innovation, etc.
Non mais Je pense encore une fois qu'il y a un conflit. Bon. Les deux protagonistes, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, ont besoin d'argent. Parce que ce conflit coûte très cher. D'abord, chacun est en train... Les budgets militaires, il y a eu un rapport qui est sorti aujourd'hui. Les budgets militaires dans tous les pays du monde n'ont jamais été aussi élevés. Ouais. Donc, ça explose. Et dans les budgets militaires, il y a les budgets de cyberespionnage et il y a les budgets de l'influence, le soft power. Okay, donc, il faut de l'argent. En gros, pour faire très simple, quand on cherche de l'argent, soit on les cherche auprès des riches parce qu'ils sont super riches, soit on les cherche auprès des pauvres parce qu'ils sont nombreux. OK? Bon, moi j'ai appris ça il y a longtemps. Donc les Américains, ils cherchent l'argent auprès des Taïwanais, des Japonais, des Singapouriens, des Européens, éventuellement un peu des Canadiens, OK? Et puis les Chinois, ils cherchent l'argent dans le reste du monde. Alors, ils partent partout en Russie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, etc. parce qu'il y a beaucoup de pauvres, mais ils sont nombreux. Donc en fait, ce qui se passe c'est que même si TikTok est interdit aux États-Unis, ça va donner probablement encore plus de puissance à TikTok pour aller dans le reste du monde. Donc on est dans un système, et on le voit bien avec Huawei. Huawei est banni aux États-Unis, il est quasiment banni en Europe, il n'a jamais été aussi fort dans plein de domaines. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens se séparent et que... Ils vont chacun sur leur terrain de chasse, ils ont chacun leur domaine, et ce conflit, bah, au lieu de rester un conflit entre deux États, ça sépare le monde. Alors, on se souvient qu'il y avait, à un moment donné, les États-Unis qui disaient toujours, maintenant, il faut qu'il y ait le découpling, hein, il faut découpler les choses. Et on a vu que le découpling ne marche pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à séparer l'économie occidentale de l'économie chinoise au sens large.
On a toujours ce cercle.
Alors maintenant, on n'appelle plus ça le découpling. On dit, le découpling n'a pas marché. Okay, il faut faire le dérisking. Dérisking, ça veut dire enlever le risque. Ça veut dire qu'il faut faire des usines de TSMC aux États-Unis, un peu en Europe, etc., etc. Donc, on voit bien que la stratégie de conflit direct économique, elle n'arrive pas encore à donner les résultats. Donc, et on s'aperçoit que ce découpling ne marche pas. Donc il va falloir trouver des moyens de vivre ensemble en dérisquant, en gardant une certaine souveraineté et en changeant les règles. Mais le découpling et l'affrontement fort, direct, économique, je crois que c'est clair qu'il n'aura pas lieu.
Et finalement, est-ce que la solution, ce n'est pas l'Europe qui... tiens, on voit l'exemple de TikTok Lite, Didier, c'est de réguler. Hein, tout simplement.
Oui, comme TikTok d'habitude.
TikTok Lite,
la spécialité pour rappel, de la Commission européenne.
Je le fais très, très bref, mais en gros, c'est on récompense les gens qui passent du temps sur TikTok. Voilà, oui. ils ont des bons d'achat et tout ça. Oui. Donc, c'était un moyen. Et puis là, la Commission européenne, alors via tout ce qui est lié au DSA, même sur, ils parlent de la santé mentale, ils disent, bon, en fait, les gars, non, TikTok Lite, ça ne doit pas passer. Hein.
Oui, alors c'est un vrai problème parce que c'est une des astuces qu'ils ont trouvées pour effectivement fidéliser encore plus les utilisateurs de leur réseau. Le problème, c'est que on s'aperçoit de plus en plus que ces réseaux ont un aspect négatif sur la santé mentale, sur la radicalisation, comme tu dis, qui n'est pas forcément la radicalisation islamiste, ça peut être tout et n'importe quoi. Et les politiques s'en alarment, ils en parlent, le Premier ministre a estimé que les portables devraient pas être utilisés dans les établissements scolaires.
Les portables, sous-entendu, ce qu'on en fait, c'est avec les réseaux sociaux.
Et donc, cette nouvelle idée de TikTok, elle arrive au plus mauvais moment, quoi. Donc, on sent qu'il y a derrière une volonté, effectivement, de relancer la machine en créant de nouvelles addictions.
Et parce qu'on voit en plus, on parlait de ça, je crois qu'il le parlait avec François la semaine dernière dans un débrief, qu'en Europe, il y a encore un gros potentiel, un gros réservoir d'utilisateurs potentiels de TikTok, donc il faut essayer de relancer la machine. Bruno, toi à Montréal, quel est ton regard justement sur ce TikTok Lite?
C'est une nouvelle stratégie de TikTok d'essayer de rentrer dans le marché plus sérieusement. Mais je vous soulignerai que parallèlement, j'ai l'impression que TikTok, et c'est probablement la consigne qu'ils ont reçue de ByteDance, c'est d'essayer de développer différents marchés. Et la dernière initiative, moi, que je regarde de plus près, parce que c'est disponible présentement uniquement au Canada et en Australie, c'est TikTok Notes, oui. N-O-T-E-S. Et ça, c'est intéressant, parce que là, ils sont en train d'essayer de rentrer dans les reins d'Instagram. C'est une application qui fonctionne à la TikTok, mais plutôt qu'être des vidéos, c'est des photos où il est possible d'inscrire, évidemment, du texte. Et ça, c'est une nouvelle une nouvelle tentative. J'ai l'impression qu'on est dans la diversification des marchés. Alors, la version light, on tente de faire quelque chose. Le TikTok Notes, on essaie de trouver autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on essaie différents outils, différentes plateformes pour voir où on pourrait développer du marché, puis un peu comme Meta l'a fait avec le temps, hein. Meta a réussi à aller chercher plus de 3 milliards d'utilisateurs, toutes plateformes confondues, parce que justement, ils ont été capables, avec les différentes plateformes, d'attirer la clientèle et puis après de faire communiquer toutes ces plateformes-là.
Yves?
Moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, si on, quelle que soit la législation, si on veut la bypasser, on la bypasse dans le monde du digital. Il suffit de passer par des VPN et il suffit de prendre d'autres adresses à l'étranger et on bypasse. C'est-à-dire,
on contourne.
On contourne la législation. Donc, honnêtement, tant bien même TikTok Lite serait interdit en France, pourquoi pas ? Celui qui voudra l'utiliser, il prendra un VPN ou il prendra une adresse, je sais pas où, dans quelques pays que ce soit, et puis il dépassera le truc, et puis c'est facile. Honnêtement, c'est facile. Peut-être même que TikTok, il proposera des solutions clés en main pour le faire, ça n'en parlera plus. Bon, donc, je pense que tout ça, c'est quand même beaucoup de gesticulation, un peu ridicule.
Oui, enfin, c'est une prise de position politique, c'est-à-dire...
Voilà, c'est une prise de position politique.
La Commission européenne dit, on est sensible à ce problème-là, et voilà, nous, quelle est la manière dont on va réagir. Ce qui va peut-être faire réfléchir les parents qui vont se dire, tiens, si les politiques l'ont interdit, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison.
Oui, je pense que les parents, ils connaissent TikTok, ils ont d'autres, enfin, ils voient bien les conséquences sur leurs enfants, hein, quand ils sont à table et qu'ils parlent plus aux parents, bon voilà. Moi, ce qui me gêne, c'est pas l'addiction, parce qu'honnêtement, si on avait voulu combattre l'addiction, le tabac, la cigarette et autres, enfin, je veux dire, des addictions, il y en a beaucoup. Ce qui me gêne, c'est la radicalisation que mène cette addiction. C'est vraiment ça, parce que tout le système est fait pour radicaliser les gens, et c'est pas une radicalisation forcément politique. Je veux dire, vous aimez les choux-fleurs, et vous aimez pas les carottes, on va vous expliquer pourquoi les choux-fleurs sont meilleurs que les carottes.
Mais c'est justement ce qu'expliquait Didier tout à l'heure quand il parlait du moteur de recherche. Moi, j'ai pris un gentiment le moteur de recherche, je cherche un restaurant, je passe par TikTok, mais ça peut être, tiens, je voudrais savoir ce que pense tel candidat européen, je vais aller sur TikTok, je vais me retrouver avec pas ce candidat, mais plein de sbires qui vont.
Oui, il y a toujours les algorithmes derrière qui vont orienter.
Absolument.
Voilà,
absolument.
Je vais avoir qu'un
soir. Et toujours dans la direction qui fait plaisir à l'utilisateur. Donc, si on a un petit penchant pour un sport, la pétanque, on a un penchant pour la pétanque. Eh bien, petit à petit, on va nous mettre de plus en plus de vidéos et de groupes sociaux sur la pétanque.
On va manifester parce que ce n'est pas un sport olympique.
Voilà, et après on va manifester parce que ce n'est pas un sport olympique, etc., etc. Donc on voit bien que ça a tendance à pousser les gens pour aimer encore plus ce qu'ils aiment déjà, ou sur lesquels ils ont une tendance. Et évidemment, ceux qui aiment la pétanque et ceux qui détestent la pétanque, du coup ils se retrouvent dans des situations opposées, radicales, ce qui génère des conflits sociaux. Et c'est ça la problématique pour moi.
Du buzz et donc de l'argent.
Du buzz et de l'argent, mais une radicalisation au sein de la société. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème.
Eh bien, voyons, on est allé beaucoup plus loin que cette simple tentative, que cette simple potentialité de suppression de TikTok aux États-Unis. Vous l'avez bien compris, c'est vraiment un phénomène qui est légal, qui est technologique, qui est politique, qui est géopolitique. Merci à tous les trois. Vous restez bien entendu avec nous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, reprendre notre débrief de la tech avec Yves Maître chez Jol Capital, Didier Sens, journaliste, et Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Tiens, je vais démarrer avec toi, Bruno. On a appris, avec tout ce qui se passe autour du DMA, du DSA, eh bien bientôt on pourra se passer d'Apple Pay pour payer avec son iPhone. Ça, c'est un gros changement. Alors après, il faut voir, moi je crains toujours dans ces cas-là qu'on aille, pour protéger le consommateur, on ennuie un peu plus l'utilisateur.
On l'a vu récemment, on n'a qu'à penser aux utilisateurs de Google Maps qui se sont mis jour au lendemain à chercher l'application sur leur téléphone. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait quand même 2 ans que ça traînait, que la Commission européenne avait accusé Apple d'avoir une pratique monopolistique, quelque part. Et donc, l'idée là-dedans, ben, il fallait trouver un dénouement à cette histoire-là, de voir que c'est pas officiel. Mais bon, des gens près du dossier ont commenté, ont livré de l'information, ont fait couler de l'information, comme quoi Apple déciderait maintenant de permettre à un deuxième joueur de permettre l'utilisation de son appareil pour du paiement sans contact. Là, après, il va falloir savoir quel joueur va avoir cette chance-là. Est-ce que ça sera Google Pay qui aura le droit d'avoir accès à ça? Est-ce que ça sera un tiers peu connu qui, finalement, bon, ben, devant l'inconnu, les gens vont quand même se retourner vers Apple Pay? J'ai bien hâte de voir qui sera le joueur choisi, parce que ça pourra faire toute la différence pour Apple.
Et alors, est-ce que ce joueur, ça peut être des banques?
Si, oui, je pense que ça peut être des banques, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu beaucoup à travailler avec Apple quand j'étais chez Orange, et ça a été un bras de fer incroyable, cette histoire-là. Je veux dire, c'est une histoire qui a plus de 10 ans, hein, cette histoire de paiement, puis aussi le NFC dans le métro à Paris. Donc les Américains vont pouvoir passer le métro avec leur Apple dans 100 jours, enfin un petit peu, oui, moins de 100 jours, 98 ou 97 jours. Ok, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui veut quand même dire que la communauté européenne, entre autres, parce qu'elle a beaucoup participé à ça, a un poids très fort. Parce que faire plier Apple, c'est compliqué.
Et donc, les amendes sont lourdes, hein. On a vu ce qui s'est passé.
Un milliard huit sur Spotify. Donc là, on voit quand même qu'à un moment donné, Apple, bah, se dit, bon, OK, il faut respecter la législation européenne et il faut ouvrir la chose. Est-ce que ce sera une banque? J'en sais rien. Je pense que Apple a probablement déjà signé quelque chose avant même cette annonce, et qu'il y avait des discussions entre les différentes parties pour essayer de trouver un accord qui satisfaisait à tout le monde et qui satisfait l'utilisateur. Donc j'imagine que le partenaire est déjà connu.
Oui, parce qu'on imagine mal toutes les banques se mettre à avoir leur propre application de paiement sans contact.
Là, oui, d'ailleurs ce qui est très flou, c'est qu'on ne sait pas si ça va être intégré à Apple Pay, c'est-à-dire si on va avoir accès à d'autres moyens de paiement dans
Apple Pay. Mais quand on va payer, on va nous dire, est-ce que voilà, nous donner plusieurs choix.
Mais d'après ce que dit Apple, parce que c'est Apple qui a fait cette proposition, il s'agit d'utiliser une solution externe. Externe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être obligé de télécharger une application supplémentaire qui va remplacer Apple Pay quand il s'agira de...
C'est là où je disais ennuyer l'utilisateur.
Voilà. Et à mon avis, ça va, on peut faire confiance à Apple pour ne pas forcément faciliter l'expérience utilisateur avec d'autres solutions que les siennes.
Oui. Bruno, c'est ce que tu imagines aussi?
Oui, exactement. Et plus on rend la chose complexe et moins transparente pour l'utilisateur, plus ils vont rester avec Apple Pay. Et dans le fond, c'est ce que Tim Cook et son équipe veulent.
Et puis tu l'as dit tout à l'heure, Bruno, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Google Maps, hein. Avant, on tapait une adresse dans Google, enfin sur son mobile, et on avait directement le Google Maps. On cliquait et on avait l'itinéraire. Et désormais, maintenant, c'est
compliqué. Hein.
Alors,
c'est compliqué.
Quand on est assez habile de ses doigts, on va s'en sortir. Mais il y a beaucoup de gens, moi, j'ai vu, qui étaient un peu perdus de savoir sur quelle appli il fallait aller, changer d'appli, enfin ressaisir l'adresse. Enfin, c'était tout ça est un peu complexe, donc c'est pour ça que je dis parfois ça protège,
oui,
les consommateurs, certes, mais...
Ça part d'une bonne idée. L'idée, c'est de favoriser la concurrence, de permettre à de nouveaux acteurs de s'imposer, de donner le choix aux consommateurs, etc. Alors, on l'a vu sur l'histoire de la musique en ligne, sur l'histoire de l'App Store. Alors, l'App Store, c'est un peu un cauchemar, hein. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais ce qui est proposé, ce sont des App Store payantes pour lesquelles il y a très peu d'applications. Donc, encore une fois, tout ce qui part d'une bonne idée n'aboutit pas forcément à des solutions sympathiques. On va pas passer sur l'exemple des cookies, hein, la fameuse loi RGPD qui était censée protéger l'utilisateur. En fait, c'est très bien, on adhère à 100%, mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'on passe notre temps à décocher des cases pour pas se faire espionner quand on visite un site web, quoi.
Non, puis comme tu le dis, Yves, il va falloir savoir qui va, est-ce que ça va être un Visa, un Mastercard, est-ce que c'est lui qui va être un acteur, est-ce que ça va être une banque, est-ce que ça va être une banque internationale, enfin voilà, c'est un peu ça. Et, non, mais... et toi, selon toi, voilà, ils ont déjà quand même prévu le...
Ah, je pense, oui, ils savent où ils sont, ils savent où ils vont. Non, quand on connaît Apple, c'est pas, il y a pas beaucoup de place pour le hasard.
Quand ils ouvrent cette porte-là, c'est qu'ils
Et que c'est déjà négocié. Pour revenir à ce que tu disais, tu as absolument raison. On avait nos habitudes et on s'était habitué à nos habitudes, bonnes ou mauvaises. C'était plutôt pas si mal que ça. Et là, on nous casse nos habitudes. Donc évidemment, si on prend le cas de Google Maps, parce que c'est un cas, je pense, qui parle à tout le monde... Bref, depuis 15 jours, c'est quand même un peu galère, quoi, parce qu'on ne sait plus, que ce soit sur son ordinateur, sur son smartphone, on ne sait plus trop, où on est. Bon, donc on va revenir à quelque chose de plus simple après. Donc on est dans une période intermédiaire qui est vraiment déconcertante, parce que ça fait des années où on est dans une certaine facilité. Là, on nous demande de réapprendre autre chose. Cette autre chose n'est pas prêt, n'est pas encore stable, n'est pas encore structurée. Donc on se sent perdant, on se sent lésé de prime abord. Il faudra pouvoir juger dans 2 ans, dans 3 ans. Mais c'est vrai que comme ça, à court terme, moi en tant qu'utilisateur, et je crois que je ne suis pas le seul, beaucoup de gens autour de moi sont frustrés de l'utilisation de Google, entre autres, mais pas uniquement.
Et ça, Bruno, est-ce que tu vois aussi une extension, toi qui es outre-Atlantique, alors pas loin des États-Unis évidemment, parce que tout ça, tout ce qu'on voit en Europe, on a vu le RGPD, eh bien ça s'est développé en Californie, enfin sous une autre forme, et puis là on voit ces règles qui vont peut-être peu à peu influencer aussi le législateur américain, que ce soit au Canada ou que ce soit carrément aux États-Unis, aux États-Unis, oui.
C'est sûr que chaque fois que l'Europe arrive à légiférer et obliger un des géants, je vais dire américains parce que la plupart sont américains là, dans le monde du numérique, à se commettre ou à devoir ouvrir une brèche, dans leur monde, dans leur système clos, c'est une victoire pour le reste des utilisateurs de ces applications-là à travers le monde, parce que vous créez une jurisprudence et par la suite, ça devient difficile. On va parler d'Apple, ça va être plus simple, mais ça sera plus difficile pour Apple de dire, lorsqu'un gouvernement étranger va lui demander, nous, on voudrait avoir une boutique qui permet d'avoir des applications, une boutique souveraine, si vous voulez, où on peut faire la promotion d'applications qui sont de notre cru, de notre terroir. Apple pourra pas dire, non, techniquement, c'est pas possible, parce que vous l'avez déjà fait en Europe. Et c'est dans ce contexte-là où chaque fois, évidemment, j'ai un petit sourire au coin de la bouche à chaque fois que j'entends que la France ou l'Europe va légiférer dans le contexte, parce que je me dis, les pauvres, ils vont encore devoir vivre justement une période d'ajustement. Mmh. Mais chaque fois que vous faites ça, c'est pour le bénéfice des autres. Alors, vous êtes un peu les martyrs numériques de la planète, mais c'est tout le monde qui en bénéficie par la suite.
Est-ce que Yves, ça peut freiner l'innovation, non pas chez Apple et chez les grands, mais d'acteurs qui se posent des questions, tiens, qui se disent, tiens, là, j'ai une super idée, mais finalement, quand je réfléchis, je compte mes 3 coups d'avance, je me dis, attends, si je me retrouve, moi, je vais investir beaucoup dans cette technologie, et puis dans 3, 4, 5 ans, si j'ai la bonne idée, je me retrouve un peu face au mur en disant, ah, tiens, c'était super votre idée, mais non. Là, il faut l'ouvrir.
Je pense que t'es un peu le cerveau va un peu trop loin, un peu trop vite. Non, je pense que là, on parle d'Apple, on parle de Google, on parle de Meta, on parle de Microsoft, on parle de TikTok, on parle de gens qui sont tellement gros qu'il faut limiter leur croissance, parce que c'est sur des règles saines de concurrence.
Parce qu'ils sont dans la banque, la santé, le mobile, ils sont partout.
Et c'est des méga entreprises du digital, et que si on veut avoir un digital sain économiquement avec de la créativité, au contraire, il faut un peu les casser pour laisser de l'espace aux autres. Donc je pense plutôt le contraire, c'est-à-dire que ceux qui étaient un peu contraints par ces gros qui les étouffaient, vont pouvoir récupérer des espaces de liberté. C'est ça qu'il faut espérer.
Ce qu'ils ouvrent là un peu, Didier, on a vécu ça, enfin, dans d'autres domaines, on était très très jeunes à l'époque quand il y a eu les démantèlements, notamment dans les télécoms, avec AT&T qui avait été coupé en plusieurs sociétés. Aujourd'hui, on voit l'effet, c'est revenu en 3-4 sociétés. Mais est-ce que ça veut dire c'est un peu l'arme anti-démantèlement? On se dit, tiens, je préfère m'ouvrir un peu que de me retrouver un jour
à côté de moteur de recherche. Apple réagit de manière très intelligente là-dessus, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont maintenant force de proposition, qui sont allés voir la commission en disant, voilà, notre solution pour être conforme au DMA, et la commission a priori était d'accord avec cette idée. Non, ce qui est intéressant, c'est que tu fais bien de rappeler cette histoire du démantèlement des télécoms. On peut rappeler aussi le précédent de Microsoft avec son navigateur web. On peut parler de plein de choses. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, rappelle-toi, entre le moment où il y a eu une décision de la Commission européenne et son application, ça a pris une dizaine d'années. Ouais. Maintenant, c'est fini. Ouais. Ça prend 6 mois. Donc ça, c'est vrai. La sanction, elle est immédiate. Donc les grandes entreprises, comme tu dis, celles qu'il faut juguler, celles qu'il faut maîtriser, sont des entreprises qui doivent s'adapter très rapidement. Et elles ont les moyens de le faire. Donc il n'y a aucun problème. Si on prend une disposition qui stipule qu'ils doivent se conformer à telle ou telle règle, eh ben, ils ont moins de temps pour le faire, mais ils peuvent le faire parce qu'ils ont les moyens.
Alors, on reste toujours sur ce sujet Apple. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu cette petite news qui est passée. C'est le magazine Challenge qui l'a sorti. C'est une société qu'on avait repérée chez Tech & Co, mais on ne les avait pas vus depuis 2022, 2023, enfin au début 2023. Elle s'appelle Dataca Lab. C'était une entreprise française à l'époque s'était fait connaître parce qu'elle s'était spécialisée dans l'analyse, la capture de l'analyse d'images. Notamment, ils travaillaient, ça va vous rappeler une époque, à la détection du port du masque dans le métro. Voilà, on était à cette époque-là avec donc ils travaillaient sur des bases de données d'images très importantes. Voilà, ils travaillaient sur du réseau, ils faisaient du edge computing. Enfin, il y avait pas mal de techno. Finalement, ça a pas marché terrible parce que la détection du port du masque, à un moment on n'avait plus besoin, mais il y avait d'autres débouchés, et puis on a vu que la reconnaissance faciale, quand même on a du mal avec les algorithmes et tout ça. Donc la société Dataca Lab montée par Xavier Fischer et son frère a pivoté, ils sont allés plus vers des logiciels de compression d'images parce qu'ils avaient beaucoup travaillé sur ce domaine-là. Et puis à un moment ils se sont retrouvés un peu, c'est Léa Benaïm qui travaille avec nous sur cette émission, qui les a eu en ligne cet après-midi, dit à un moment on s'est retrouvé face à un mur, problème de clients, problème de technologie, de concurrence aussi avec les GAFAM, on peut pas aller plus loin, et donc on choisit de rejoindre Apple, puisque c'est Apple qui vient de les racheter. Alors les conditions du rachat ne sont pas connues, mais voilà, qu'est-ce qu'il faut penser
il y a un truc qui me perturbe, c'est que personne parle de l'activité réelle de cette boîte. On a l'impression que c'est une boîte qui sort de qui fait de l'intelligence artificielle.
Ils font du deep learning, des choses comme
mais
ça.
Mais non, hein. Mais ils font de la mesure d'audience. Leur cœur de métier. Alors on dit c'est une entreprise spécialisée dans la compression d'algorithmes et l'intelligence artificielle. Ouais. Hein, c'est comme ça que c'est présenté. Allez voir sur leur site et sur les sites d'informations financières qui parlent d'eux, on peut lire qu'ils développent des technologies innovantes permettant d'analyser des réactions de panélistes, de détecter des émotions de personnes.
C'était ça, au cinéma, on pouvait détecter...
De mesurer des audiences pour des panneaux publicitaires ou encore de quantifier le trafic visiteur. Donc, en gros, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle la mesure d'audience numérique. Et leurs clients, c'est RATP, Médiamétrie, Disney. Donc, c'est une entreprise de marketing numérique avec des algorithmes spécifiques.
Après, ils ont un peu bifurqué. Hein. Ils sont allés vers les algorithmes de compression pour...
Mais c'est pas ça qui intéresse
à peu. La reconnaissance, ils n'arrivaient pas à le vendre. Et ils se sont dit, tiens, on a développé ces technologies de compression d'images pour que ça parte sur les réseaux. Et ils se sont un peu plus concentrés dans ce domaine. Mais voilà.
On a en France des champions de la mesure d'audience. Hein. On a des gens qui sont spécialisés dans l'espionnage commercial, hein, Criteo, oui. Bel exemple. Donc, à mon avis, cette entreprise
Dataca Lab
est dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il y a un vrai savoir-faire sur l'extraction et le traitement de données. Et je pense que c'est plutôt cet aspect-là qui intéresse Apple plutôt que la compression de données. Enfin, franchement, ils ont.
Là, ce qu'ils disent, c'est les chercheurs de Dataca Lab se sont penchés sur les technologies d'optimisation des réseaux neuronaux. Alors, les deux fondateurs, eux, ne font plus partie du deal. Ils quittent l'entreprise et c'est les chercheurs qui vont rester chez Apple. Yves, tu as suivi ça ?
Alors, d'abord, je ne connais pas cette société, mais il s'avère que je suis étonné que ça se soit su.
Oui, parce qu'ils en rachètent plus. Ils rachètent souvent des boîtes.
Ça date de décembre.
Ils se rachètent souvent des boîtes. Et moi, j'ai été au conseil d'administration d'une société française qui s'est fait racheter il y a quelques années par Apple. Personne ne l'a su et personne ne le sait. Et je ne dirai jamais comment ça s'est fait. Mais bon, il s'avère que quand on est au conseil d'administration, on participe un peu aux négociations d'une manière ou d'une autre. Donc, et je sais que dans ces contrats-là, il y a des clauses de confidentialité tout à fait légitime et extrêmement stricte. Donc je suis étonné que ça se soit su. Ça, c'est la première chose que je voulais dire.
Juste, on aura peut-être Xavier Fischer, on l'a eu en ligne, là. Donc, j'ai dit, Léa Benaïm l'a eu en ligne. Il doit négocier, justement, sous réserve que l'on ne parle pas du rachat et des conditions du rachat. Il viendra peut-être nous parler, justement, de leur société, de l'activité, et pourquoi ils ont pivoté, pourquoi ça a moins bien marché, pourquoi ils se sont revendus à Apple.
La deuxième chose, c'est que, généralement, les dirigeants d'entreprise n'intéressent pas Apple. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent deux choses, les brevets, et les experts. Point à la ligne.
Ah ben là, c'est ça. Les chercheurs restent. Et après, d'ailleurs, certains sont déjà partis en Silicon Valley.
C'est que toutes ces équipes-là, même quand on était au board, on les connaissait, parce que c'est des petites PME, donc on se voyait, on se faisait la bise, tu vas bien, avant le conseil, machin, nul. Tout d'un coup, ils vous parlent plus. Ils sont chez Apple, ils vous parlent plus. On ne sait plus rien. Ils répondent plus aux mails, à peine aux textes. Bon, ils déménagent parfois, et on les retrouve à Cupertino. Ah bah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ah bah je sais pas, je me promenais. Ah bah tiens, toi aussi. Voilà. Donc il y a un process d'intégration de ces entreprises chez Apple qui est hyper réglé, hyper structuré, hyper performant. Et Apple fait ça régulièrement. C'est-à-dire que, alors celle-ci, ça s'est su, mais rien ne nous dit qu'aujourd'hui, hier, demain, après-demain, il y en a pas encore une autre française ou autre. Voilà. Ça fait partie de leur process. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ça se sache. Alors après,
le rachat, il date de 17 décembre, quand même.
Oui, mais ça, c'est récent.
4 mois, 5 mois.
En fait, c'est quand même bizarre qu'il y ait une fuite, parce qu'il y en a d'autres, je peux te le dire, parce que moi, j'en connais une pour laquelle j'ai participé. Ça ne s'est jamais su, et je vois pas pourquoi ça se saurait maintenant.
On brûlera la plante des pieds tout à l'heure.
Non, mais ça se saura pas. Et la deuxième chose, c'est quels sont les brevets? Et quand même, moi, il y a un truc qui m'interpelle, parce que dans ce qu'ils ont, il y a la reconnaissance des émotions faciales dans les brevets, parce que c'est les brevets qui rachètent. Et je me dis, mais ça, dans un casque de virtual réalité, enfin, dans un casque, ça sert, parce que quand on a le eye tracking, c'est-à-dire on sait ce que les gens regardent dans leur casque, et on connaît leurs émotions, quand on sait ce que les gens regardent et qu'on connaît l'émotion des gens sur ce qu'ils regardent, waouh, on commence à avoir un paquet de données sur l'aspect irrationnel et sur l'aspect émotionnel de ces personnes-là.
Tu penses que c'est plus ça qu'ils sont venus chercher que... c'est vrai que la partie compression, ils l'ont tous. Enfin, ils savent tous travailler...
Ils ont beaucoup de pression.
C'est l'algorithmie de réseaux neuronaux.
J'en sais rien, mais ça fait partie des brevets. Mm-hmm. Mais quand j'essaie de regarder où Apple est en difficulté en ce moment... Et ils doivent en sortir, c'est sur ce casque. C'est quand même pas... Enfin, il y a encore eu un certain nombre d'articles de vente, enfin, avec des pas des chiffres, parce qu'on n'a pas les chiffres, mais des guesses, comme on dit en français.
Des indicateurs.
Oui, des indicateurs, de vente, et elles ne sont pas très bonnes. Elles sont pas très bonnes. Mmh. Donc il va falloir qu'ils redonnent un nouveau souffle à ce casque Apple. Et moi, je me dis, c'est vrai que quand j'étais chez HTC et que je devais travailler sur ce casque, si j'avais eu ça, ça donne un paquet d'informations sur l'utilisateur et donc sur ce que vit l'utilisateur puisqu'il est enfermé. On ne sait pas ce qu'il vit. Si on sait ce qu'il regarde, si on sait comment il réagit, là, on peut commencer à lui donner du contenu qui va apprécier et faire en sorte qu'il reste plus longtemps dans le jeu ou plus longtemps dans ce monde virtuel.
Bruno,
bonne piste, oui.
Bruno, qu'est-ce que tu as cette même analyse là que Yves?
Oui. Tout à fait, je m'en vais dans le sens de Yves et je vous rappelle que plus que c'est l'autre parce qu'on parle de Vision Pro, mais le casque tient en partie ses origines au Québec. Hein. Quand Apple l'a acheté suite à la découverte au CES il y a plusieurs années d'une entreprise québécoise qui avait un casque immersif, le Virvana, qui a été acheté évidemment en douce, personne ne l'a su. Et puis il y a une partie de l'équipe qui a été longtemps, d'ailleurs il y en a encore quelques-uns qui sont à Cupertino et puis ça a été la cellule de départ par la suite qui s'est fait. Mais l'autre histoire que je trouve intéressante avec cette acquisition-là, et tu l'as dit, Fred, c'est le pivot. Et ça, je pense que ça envoie un message optimiste pour les startups qui ont de la difficulté et qui voient pas vraiment leur... À un moment donné, bon, on a une bonne idée, on la développe puis on frappe son mur, on voit que les temps ont changé. Ben, de pas hésiter à regarder pour développer et changer sa trousse de billes devant soi. Je pense le meilleur exemple qui est française mais qui vit aux États-Unis, c'est Hugging Face. Mm-hmm. Au départ, moi, je me souviens les avoir interviewés quand ils sont débarqués à New York et ces Français-là avaient développé un Tamagotchi numérique. Ben aujourd'hui, ils sont bien loin de ça. Oui. Ils sont encensés par les gros joueurs de l'IA. Ils sont devenus le hub. Et c'est parce qu'ils ont décidé de changer leur business. Et ça leur a bien servi. Alors, dans le cas d'Atacara, moi, je trouve que c'est intéressant de les voir évoluer. Mais dans leur cas, ils ont toujours travaillé sur le maître mot étant la reconnaissance faciale. Et ils ont bonifié avec les années les différentes étapes de développement, leur savoir-faire. Puis là, ben, ça accumule avec l'achat d'Apple.
Ben voilà, ben on vous tiendra au courant parce qu'on essaie d'avoir Xavier Fischer, donc le cofondateur de cette entreprise. Voilà, il faut voilà, on pourra pas parler concrètement de ce que va faire Apple, mais ils pourront déjà nous raconter leur histoire et leur histoire de pivot. Il nous reste juste une minute, juste un mot. Alors c'est une news qu'a sorti ce matin BFM Business. Yves, le gouvernement français qui pourra investir dans Atos, ça veut dire est-ce qu'un jour on aura ce cloud français? Tu en parlais, hein, faut quand même le dire, tu en parlais il y a 2-3 ans déjà.
Oui, ben moi je suis content de voir que le gouvernement français écoute BFM Business, et il a bien raison, et il faut l'encourager, comme beaucoup de gens. Oui, je pense que il y a une question d'infrastructure pour être gagnant dans l'intelligence artificielle. On a des startups d'applications comme Mistral, comme Qtech, etc. Oui. Qui sont vraiment sur la bonne pente, et je pense qu'il faut vraiment s'en féliciter. Sur l'infrastructure, il y a tout un travail à faire, on n'y est pas. Atos a des capacités. Atos va pas bien, que le gouvernement français décide de les soutenir en privatisant, et nous en avions déjà parlé ici sur ce plateau, je trouve que c'est plutôt positif parce que c'est dans l'infrastructure que la bataille va se faire. Et si Atos peut être soutenu par le gouvernement français et plus largement par l'Europe, espérons-le, eh bien moi je trouve que c'est extrêmement positif, et je salue cette initiative du gouvernement, si toutefois elle est vraie.
Oui, si toutefois elle se fait. Ben merci.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
Allez, restez avec nous dans un instant. On va poursuivre avec le ministère des Armées qui lance le premier hackathon sur l'intelligence artificielle. Mais tout de suite, le Tech Flash avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa.
Bonsoir Fred et bonsoir à tous. L'étau se resserre autour de TikTok, accusé d'espionnage pour le compte des Chinois. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté samedi un texte de loi qui oblige Biden à vendre son application phare. Le vote doit maintenant passer devant le Sénat, puis sur le bureau de Joe Biden, qui a d'ores et déjà fait savoir qu'il signerait le texte. Si cette loi est validée, la maison mère de TikTok aura 9 mois pour trouver un acheteur américain. Et en cas de refus, le réseau social sera banni des boutiques d'applications sur le territoire. Et après les États-Unis, c'est l'Europe qui s'attaque à TikTok, et plus précisément TikTok Lite, l'application qui récompense la fidélité des utilisateurs en carte cadeau Amazon. Bruxelles a ouvert aujourd'hui une enquête et menace de suspendre cette fonctionnalité à partir de ce jeudi. La Commission européenne estime que le mécanisme pose trop de risques pour la santé mentale des utilisateurs. Et toujours en Europe, il sera bientôt possible de payer avec l'iPhone, mais sans passer par Apple Pay. D'après Reuters, les régulateurs européens sont prêts à valider les propositions d'Apple pour se conformer au DMA, dont l'une d'entre elles concerne l'ouverture de la puce NFC. Apple va permettre aux concurrents comme les banques, par exemple, d'utiliser cette technologie de paiement sans contact en Europe. En théorie, l'accord devrait être effectif d'ici cet été, mais tout dépendra de la rapidité avec laquelle Apple déploie ses mises à jour. Et on reste du côté d'Apple avec un deal qui s'est fait en toute discrétion. Le géant américain a racheté la start-up française Datacalab. Selon le magazine Challenge, le montant de la transaction n'est pas connu, mais l'opération a été notifiée à la Commission européenne. Fondée en 2017, la start-up est spécialisée dans la compression d'algorithmes et l'analyse d'images par intelligence artificielle. Dans l'automobile, les déboires continuent chez Tesla. L'entreprise d'Elon Musk va baisser le prix de ses véhicules en France, mais aussi en Chine et en Allemagne. Objectif, relancer la dynamique des ventes ralenties par la guerre avec les constructeurs chinois. La plus grosse évolution concerne la Model 3, dont le ticket d'entrée a été abaissé de 3 000 euros. Elle redevient ainsi la voiture électrique la moins chère de Tesla sur le marché français. Et pour finir, on reste dans l'auto avec un nouvel épisode d'En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp. Et cette semaine, on parle des bornes électriques. Faut-il choisir entre la qualité et la quantité? Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
Et notre premier invité, c'est Clément Molison, secrétaire général de l'AVER. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'AVER, on connaît, association de promotion du véhicule électrique. Vous êtes venu à plusieurs reprises en route pour demain, Clément. On, les bornes, on avait l'impression qu'avant, il y avait une question de disponibilité. Il n'y en avait pas assez. On râlait beaucoup. Maintenant, on a l'impression que ça y est, on a enfin dépassé ce stade-là. Des bornes, on en a suffisamment. Alors, est-ce que c'est juste ?
Oui, c'est juste. On a beaucoup parlé en fait de l'objectif 100 000 bornes et du fait qu'il n'avait pas été atteint. Il avait été avancé d'un an. Aujourd'hui, il est atteint. On continue à en déployer. On en a plus de 123 000 aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on les voit un petit peu partout et notamment pour ceux qui ont pris la route des vacances, sur les autoroutes, on a vu tous ces aires de service qui étaient bien maillées.
Voilà, en route pour la tech avec Pauline Ducamp. Vous retrouverez bien entendu ce programme sur la chaîne Tech & Co et sur BFM Business. Allez, tout de suite, on va parler du ministère des Armées qui lance son premier hackathon dédié à l'intelligence artificielle.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Voilà, ça se déroulera dès demain, 23-25 avril, et opposera les meilleurs étudiants français en la matière. Ils seront 130 sur la ligne de départ. Ça s'appelle IA Data Hack. C'est le ministère des Armées qui lance ce premier hackathon. Alors, c'est dans la suite. On va en parler aussi de la stratégie du ministère des Armées présentée il y a quelques semaines par Sébastien Lecornu. C'est le 8 mars dernier, d'ailleurs, sur une feuille de route qui était déjà rédigée en 2018. Mais voilà, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été ajoutées. Et donc, notamment, trouver des talents. Et c'est le but de ce hackathon. On va en parler avec Valérie Penaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes inspectrice générale de l'administration, directrice adjointe au secrétaire général pour l'administration et déléguée à la transformation et à la performance ministérielle au ministère des Armées. Et puis, avec nous également, Rav Raliterasson. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes étudiante à Albert School et participante donc à ce hackathon. Ça démarre demain, un peu stressé, voilà, dans quel état on est
Un peu stressé, mais oui. On est confiant pour la.
C'est par équipe ou pas? Oui, vous allez
c'est
être
par équipe, vous c'est ça, 3, avec 4, des autres élèves d'autres écoles.
Alors, racontez-nous, Valérie, en quelques mots, ce hackathon, alors il fait écho à cette stratégie ministérielle sur l'intelligence artificielle qui a été présentée, donc je disais, par Sébastien Lecornu. Et alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver des talents, racontez-nous.
Alors, c'est de trouver des talents, c'est aussi s'inscrire dans une nouvelle dynamique, comme vous l'indiquiez. La stratégie ministérielle a mis en œuvre et met en œuvre une feuille de route très ambitieuse en matière d'intelligence artificielle pour laquelle nous avons en effet besoin de talents. Et la formule du hackathon est une formule intéressante parce que c'est une formule d'innovation et de compétition collective qui nous permet de travailler sur des sujets très concrets. On propose des défis qui correspondent vraiment à des problèmes rencontrés par le ministère des Armées.
Ils vont avoir une enveloppe à ouvrir avec le thème.
Ils vont avoir une enveloppe à ouvrir, ils vont découvrir une thématique. Ils vont être accompagnés pendant ces trois journées par des équipes du ministère des Armées. C'est toute la communauté du ministère des Armées qui sera mobilisée pour les accompagner, les mentorer, les coacher. Et puis, c'est comme vous le disiez, surtout un objectif de faire connaître le ministère des Armées par les futurs talents de demain. Dont nous avons
qui n'aillent
tous
pas uniquement
des
Américains
besoin.
Ou
absolument.
Monter leur start-up.
Et on s'inscrit aussi, ce faisant, dans une technique et une pratique dont les étudiants sont vraiment familiers aujourd'hui. Donc,
alors, ça dure trois jours. Il y a plusieurs écoles qui sont présentes, parce que
absolument.
Ça fait 130 étudiants au total. Donc, on retrouve, alors, il y a les écoles d'ingénieurs, il y a les PITA, il y a la Cité Polytechnique de Paris.
Absolument.
L'école d'ingénieurs CE.
Exactement.
Voilà, il y a déjà des thèmes que vous avez définis.
Il y a déjà des défis, ou bien sûr, qui ont été déjà préparés, organisés, qui portent sur des sujets assez différents, que je ne vais pas complètement dévoiler aujourd'hui, parce que
ce serait
un dommage. Voilà, absolument.
Je ne connais pas encore mon sujet.
Et c'est pour ça. Merci de préciser.
Il y a des détections d'objets, il y aura bien sûr des sujets.
Il y a des questions d'objets, des questions d'anneaux. On va avoir, je crois, une offre très, très complète.
C'est le premier sur l'IA, ou vous aviez déjà organisé des hackathons sur d'autres. D'autres domaines, je sais pas, sur la cyber.
On a déjà organisé des hackathons, ouais. C'est une formule qui nous convient bien. C'est le ministère des Armées, c'est à la fois un ministère de tradition, mais aussi d'innovation. Et donc, il se transforme continuellement. On en avait organisé un sur les datas en matière d'énergie. On en a organisé un avec le pôle Léonard de Vinci sur le futur du travail. Mais en matière d'intelligence artificielle, oui, c'est le premier pour nous.
Alors, Rav Raliterasson, donc je rappelle, vous êtes étudiante à Albert School, participante de cet hackathon.
Exactement.
Pourquoi vous participez?
Eh bien,
qui vous a motivé avec votre équipe? Vous serez combien dans l'équipe Albert School?
On ne connaît pas encore nos équipes.
Ah bon, vous ne connaissez
pas
encore?
Mais on est 3-4 à peu près, je pense. Et ce qui nous a motivé, c'est bien sûr, l'école nous a poussé à le faire, pour commencer. Donc, en nous parlant du ministère des Armées et de tout ce que ça a engendré, toutes les nouvelles problématiques qu'on pourra voir, découvrir les sujets dont on ne peut pas forcément. Pouvoir traiter dans nos sujets de tous les jours de cours, finalement. Donc c'est tous ces côtés pratiques et tous ces...
Et alors vous-même, alors vous découvrez l'équipe, ça veut dire que vous pouvez être avec des gens de l'Institut Polytechnique, de l'ECE, c'est ça l'idée.
Oui,
c'est
ça peut être voilà, mélangé.
Tirage au sort.
Ouais,
alors vous-même, vous êtes développé déjà en IA, vous avez déjà.
Oui, alors moi, je suis en première année de bachelor business et data à Albert School. Mm-hmm. Donc c'est une nouvelle école qui est hybride, qui allie business et data. Donc c'est ma première année, comme je l'ai dit, et c'est finalement le moment de mettre en pratique tout ce que j'ai pu voir.
Et alors, ça veut dire, Valérie Penaud, qu'il y a il y a une catégorie de développeurs, il y a une catégorie de business data.
Non, ils travaillent ensemble sur les mêmes défis. Ils ont des formations qui sont comme assez proches, même si Albert School, en effet, a ce caractère hybride que Rêve rappelait, qui était particulière. Mais ce sont des étudiants en ingénieur IA, et donc ils travaillent ensemble sur les mêmes défis.
Et du coup, Rêve, je profite de vous avoir avec nous. Vous voyez où après? Enfin, cette expérience, bien entendu, va, comme vous l'avez dit, va vous permettre de travailler sur des sujets que vous n'avez peut-être pas l'occasion d'aborder pendant votre cursus.
Oui.
Ensuite, c'est quoi? C'est pourquoi pas si.
Pourquoi pas faire un stage?
C'est ça l'idée.
Pourquoi pas postuler par la suite, mais en fonction des sujets qu'on aura, on pourra découvrir et voir où ça pourrait nous mener.
Dans votre promotion, quand vous discutez avec tous les autres élèves, ils ont envie de faire quoi derrière dans l'IA? C'est monter leur start-up, c'est aller se tester chez des géants américains, c'est se dire non, en France, il y a plein de choses à faire dans les ministères notamment, mais aussi dans des grandes entreprises.
Alors nous, on a des hackathons déjà dans notre école qui sont proposés toutes les 3 semaines, donc on peut déjà avoir tous les types d'entreprises, donc des start-up, des grands groupes, des plus petits groupes, donc on peut déjà voir un peu vers quel type d'entreprise on voudrait s'orienter, oui.
Valérie Penaud, pourquoi 3 jours? Pourquoi pas une seule journée?
Parce que ce 3 jours, ça donne beaucoup plus de temps d'approfondir évidemment les projets, parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a une vraie mobilisation de la communauté du ministère des Armées, donc on a des défis ambitieux qui vont prendre du temps dans le travail sur les solutions qui vont être recherchées par les étudiants, parce que, comme je vous l'indiquais en plus, l'accompagnement qu'on a mis en place est assez ambitieux, on organise des masterclass sur un certain nombre de sujets, on a des jurys assez prestigieux qu'on mobilise pour la fin de ce projet, donc c'est un projet pour nous qui a de l'ampleur, oui, bien sûr.
Et je le disais, ça s'inscrit dans ce prolongement donc de cette stratégie ministérielle autour de l'IA. Donc, alors il y a plusieurs choses qui ont été faites. Il y a un pôle de recherche de l'agence ministérielle pour l'IA de défense qui va être intégrée.
Déjà une agence ministérielle qui va être créée. Absolument.
C'est 300 personnes aujourd'hui. À terme, ça va être presque 1000.
C'est 300 personnes en perspective.
En perspective, voilà.
Aujourd'hui, ça démarre avec une
cinquantaine. Mais le but, c'est de monter, enfin d'avoir une vraie
Capacité de force de frappe, oui, bien sûr, et son directeur Bertrand Rompierre présidera d'ailleurs le jury du hackathon.
Et vous, le but, c'est vraiment de faire connaître un peu tous ces métiers, parce qu'évidemment, lorsqu'on est étudiant en IA, je ne suis pas sûr qu'on pense tout de suite à se dire, tiens, je vais aller voir le ministère des Armées, ils ont certainement des choses pour moi.
Non, vous avez raison. C'est vraiment faire connaître en effet l'extraordinaire diversité, le terrain de jeu assez fabuleux du ministère des Armées à ces étudiants qui en effet peut-être naturellement n'y penseraient pas. Et c'est aussi pour nous enfin un moment assez mobilisateur de la communauté de défense dans le cadre de cette stratégie qui nous à la fois nous permettent de mettre sur la table des sujets qui nous intéressent, des problèmes auxquels on recherche pour lesquels on recherche des solutions, et puis en effet de créer pour l'avenir des partenariats avec des écoles, écoles qui forment des profils dont nous auront besoin, et puis peut-être en effet des aventures après plus prolongées avec certains des étudiants qu'on connaîtra demain.
Et c'est moins compliqué là de trouver des stages en ce moment sur l'IA, Rav?
Oui, enfin c'est encore un peu compliqué en bachelor 1, mais...
Oui, c'est ça, parce que la durée du stage souvent est un peu courte et les entreprises...
Un peu courte, mais je pense que ce sera plus facile demain que ça l'était hier par exemple ou il y a quelques temps.
Et donc prête pour ces 3 jours de défi.
Motivée.
Alors ça se passe comment? Il va y avoir à eux de développer, de trouver les...
Oui, voilà. Absolument, bon. De se poser les bonnes questions, d'interroger les experts IA du ministère qui seront présents, de nous faire des propositions. Et ensuite, chacun des défis sera analysé avec des critères d'évaluation, tout ça est très sérieux, pour qu'on puisse définir ceux qui auront remporté les fameux défis en question.
Tiens, je profite de vous avoir avec nous, Rav Réalitération
donc je rappelle, vous êtes étudiante. L'IA générative, vous avez été, comme tout le monde, complètement surprise quand c'est arrivé. Là, voilà, on a vu ça arriver en novembre 2022 maintenant. Mm-hmm. Et puis, enfin voilà, dans le cadre de vos études, on vous a dit allez-y, testez, allez-y.
Oui, ça a été fermé études, tout de suite. Non, ça s'est poussé pour l'utiliser. On est poussé à l'utiliser quand on en a besoin, dans un bon cadre. On est toujours on apprend toujours à coder, bien sûr, mais. Mm-hmm. On peut toujours s'en appuyer et faire en sorte que ça nous aide dans nos devoirs et nos...
Au quotidien, Valérie, j'imagine aussi que vous avez regardé de près cette IA générative. Et pareil, alors on est dans le cadre de l'armée, donc il faut qu'il y ait ce cadre, il faut qu'il y ait un périmètre, évidemment. Mais pareil, un peu surprise aussi par...
Par l'accélération, oui. Bien sûr, hein, par la vitesse avec laquelle, finalement, ça a pris place dans nos vies quotidiennes. Mais l'IA générative, c'est un vrai enjeu pour le ministère des Armées, comme vous l'indiquez, parce que nous pouvons difficilement exposer toutes nos données sur Internet, vous le comprenez très bien. Donc en fait, nous sommes actuellement en train de développer un modèle d'IA générative. Oui. Pour, en effet, notre
GPT.
Absolument.
Eh bien, merci d'être venu. Ça se passera juste à côté, c'est ça? Enfin, parce qu'on est au
Albert School, c'est... Ah non, Albert School, c'est rue du Paradis.
Rue du Paradis, d'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est à l'Albert School, excusez-moi.
Absolument.
C'est moi qui me suis trompé. Donc, 130 étudiants, donc grave, on vous souhaite bonne chance. Ça démarre demain, ça s'appelle l'IA Data Hack. On aura l'occasion, évidemment, de parler un peu de tous les projets qui vont être définis là. 130 étudiants qui vont s'affronter pendant 3 jours autour de projets en IA sous l'initiative du ministère des Armées. Merci, Valérie Penot, venu nous parler de tout ça. Et puis, bon courage et bonne chance à Rav Ralitérasson, étudiante à Albert School. Merci. Et participante demain à cet hackathon. Allez, tout de suite, on va retrouver notre chronique de Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà, c'est notre la rédaction de Tech & Co qui est avec nous, avec Pierre Bergessia. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Frédéric.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est une histoire de dingue. Hein. Des cybercriminels ont exploité une faille sur l'Apple Store en ligne pour voler 400 000 dollars à leurs clients. C'est quoi cette histoire?
Alors, cette histoire... Alors, accrochez-vous, vous qui nous regardez ou nous écoutez, parce que l'histoire est quand même vraiment complexe. Alors, tout ça, Frédéric, ça se passe... en Asie, hein. Mmh. Plus précisément en Corée du Sud et au Japon. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que des cybercriminels, en fait, postent des annonces sur une sorte de Le Bon Coin local où ils proposent des produits Apple à un prix...
Évidemment.
Bon, défiant, un prix attractif,
défiant,
mais raisonnable. Ouais, raisonnable quand même pour pas attirer les suspicions. Mm-hmm. Alors concrètement, donc des acheteurs qui vont se transformer en victimes, on le verra plus tard, vont commander le produit Apple. Et ce que va faire le cybercriminel, c'est qu'il va commander sur un site Apple officiel, un Apple Store en ligne, de manière tout à fait légale, produit, en tout cas légal, normal, un produit Apple. Et va juste remplir une option qui permet de, à partir des coordonnées de l'acheteur, lui permettre d'aller le chercher physiquement en magasin.
Donc c'est là. Et c'est là. Alors, ce qui est important, là, ce que vous disiez, Pierre, c'est que les prix, justement, l'intelligence de ces hackers, c'est justement d'avoir maintenu un niveau de prix. Voilà, qui ne choque pas. On n'est pas l'iPhone vendu 200 euros, quoi. On reste dans ce domaine-là.
Complètement. Hein, d'ailleurs. Cette arnaque a quand même duré 2 ans. Elle est passée sous les radars pendant un bon petit moment. Donc,
Et comment Apple a réagi justement par rapport à ça?
Alors Apple, ils ont réagi en tout simplement disant qu'ils ne veulent pas coopérer en fait avec les gens qui ont découvert cette arnaque, parce que cette arnaque concrètement, c'en est une parce que les cybercriminels achètent les produits Apple sur l'Apple Store officiel avec une carte de crédit volée. Donc concrètement. L'acheteur va récupérer bien un produit dans un Apple Store physique officiel, mais un produit qui a été acheté avec une carte de crédit volée.
Ah oui, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de plainte de la part des clients, parce qu'eux récupéraient de toute façon leur produit.
Ah, ils récupèrent un produit, mais alors ce qui se passe, c'est que ils peuvent être inquiétés par la justice, parce que techniquement,
produit. L'argent n'a pas été débité de leur compte.
Exactement. Et par contre, le cybercriminel, lui, a blanchi l'argent qu'il a obtenu avec la carte de crédit volée au préalable.
Eh bien, voilà. Et donc, criminels plutôt basés en Chine.
Des criminels qui sont plutôt basés en Chine. Mais le problème, c'est comme je l'évoquais précédemment, en fait, Apple n'a pas décidé de réagir, en fait, n'a pas décidé d'aider, de coopérer avec les gens qui ont découvert cette arnaque. Au contraire, même, ils ont été accusés, je cite, d'entrave à l'enquête. Ils n'ont pas décidé de coopérer pour des raisons un peu obscures liées à un règlement interne. Le problème, c'est que oui, certes, là, ces cybercriminels sont basés, plutôt, ils seraient en tout cas basés en Chine, mais l'arnaque est toujours possible, et ça, partout dans le monde.
Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. On peut bien entendu retrouver cette actualité sur le site de BFM Business, sur le site de Tech & Co. Merci Pierre Bergessia d'avoir été avec nous, journaliste Tech & Co. Allez, tout de suite, on va partir en Bretagne et sous la mer. C'est tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Alors, n'y voyez pas ma connotation bretonne qui ressort, mais voilà, le hasard a fait que nous allons parler de l'Ifremer ce soir avec Benoît Morin. Bonsoir.
Bonsoir.
Benoît, vous êtes responsable des infrastructures HPC, donc supercalculateur d'Ifremer. Ifremer, rappelez-nous en deux mots, donc vous êtes basé à la pointe de la Bretagne.
Exactement.
C'est de la recherche autour des océans.
Plus années, oui. Donc, on aime bien dire qu'on couvre des abysses à la surface et de la côte au grand large. Mm-hmm. Donc, tout ce qui a trait aux océans.
Alors justement, on s'étonne un peu, on fait beaucoup, alors ici même, on parle toujours de SpaceX, voilà, on va beaucoup explorer l'espace, et finalement le fond des mers, ou même les mers d'une façon générale, on ne connaît pas si bien que ça, c'est 95% qui sont quasiment inexplorés.
Exactement, on connaît peut-être mieux la surface de la Lune qu'on connaît les oui. grands fonds marins.
Et d'ailleurs, j'y reviendrai parce qu'il y a peut-être un moyen aussi dans le côté grand public, hein, parce que grand public, on a accès parfois à des explications pour écouter ce qui se passe sur Mars, pour voir les étoiles. Sous les mers, c'est un peu plus compliqué. Alors, racontez-nous l'histoire de ce supercalculateur. Alors, Ifremer, bien entendu, il y a des scientifiques, ils récupèrent beaucoup de data. Un centre de calcul qui a été créé, c'est en 2017 hein, pour celui-là, Data Armor.
Pour la plus récente génération, oui.
Voilà, 462 teraflops, donc en gros, 2500-3000 PC, voilà la puissance de ces 3000 PC pour calculer tout ça. Vous recueillez des données, observation de l'océan par satellite, des cartographies des fonds marins, des mesures aussi physico-chimiques des observateurs sous-marins. Et puis, évidemment, on a de plus en plus de données, notamment des images. Et c'est ça qui vous a poussé à vouloir renouveler ce supercalculateur.
En fait, pour rester à la fine pointe de la technologie, le calcul haute performance, on a besoin peut-être à tous les 5 ou 6 ans de se renouveler. Et donc, nous, dans le cadre de ce rehaussement, on en a profité pour se coller aux besoins exprimés par les différents projets. Et donc, c'était l'explosion de la donnée, l'IA très, très présente maintenant sur l'horizon. Et donc, on essaie de préserver le plus possible les données parce que, même si on peut dire qu'aujourd'hui, on en a extrait leur valeur, mais peut-être que dans un an ou deux, une nouvelle technique, peut-être basée sur l'IA, va nous permettre d'en sortir encore plus d'informations.
Et donc, il faut toujours avoir sous la main ces données. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir... Alors, vous faites plein d'études sur, sur le dérèglement climatique, sur la biodiversité. Mais le but, c'est quoi? C'est d'avoir une sorte de jumeau numérique de l'océan? Ce serait ça, un peu, l'idée? Enfin, le but ultime?
La vision, c'est pour l'horizon 2030 d'avoir un jumeau numérique. Donc, un double des océans qui nous permettrait de l'interroger et de pouvoir avoir des réponses à des questions fondamentales. L'impact des dérèglements climatiques sur les espèces, sur la hausse des mers, bien sûr. Donc, sur tous les aspects qui peuvent nous intéresser.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant dans votre domaine, c'est que c'est à la fois, je parlais de biodiversité, donc c'est la faune, la flore, mais c'est aussi voilà, les roches qui composent le sable, la qualité de l'eau, l'influence de l'atmosphère sur l'eau, de la pollution, la couche d'ozone, etc.
Le littoral, l'érosion, on peut s'intéresser à tout ce qui touche de près ou de loin aux espèces. Donc, les objectifs de l'Ifremer, c'est de, bien sûr, pouvoir protéger les milieux marins, mais pouvoir aussi les exploiter de manière raisonnée. Mm-hmm. Et on a besoin de ces outils pour pouvoir aider les décideurs publics dans leurs décisions.
Oui, parce qu'on entend beaucoup de choses hein, sur les océans marins. Tiens, d'ailleurs, c'est pas loin de chez vous, on disait que dans la baie de Douarnenez, donc voilà, si on regarde la Bretagne, voilà, il y a une grande baie sous cette croix de la presqu'île de Crozon. On dit qu'il y a peut-être du lithium au fond. Voilà, ça pourrait être ça.
Ah oui.
Je prends un exemple très concret, mais ça peut être ce genre de recherche.
Donc oui, la recherche des fonds marins, mais aussi la prévention, par exemple, des tsunamis. Mm-hmm. Tout ce qui peut potentiellement nous servir dans la vie du quotidien, on peut en déduire des informations à travers tout ce qu'on collecte.
Là, aujourd'hui, alors, tout ça, ça s'inscrit évidemment dans une stratégie européenne. Hein. Vous travaillez avec d'autres, le pôle national de données océan, avec Audatis. Là, les investissements, c'est de l'ordre de 6-7 millions d'euros. Alors, il y a la région, oui. Il y a l'Union européenne, c'est ça ?
7,5 millions d'euros pour cette génération. Donc, entre autres, la région Bretagne, la Brest Métropole, des fonds européens, bien sûr, et des partenaires de l'infrastructure. Pour nous, c'est un outil essentiel pour nous permettre de réaliser ce qu'on fait au quotidien, de réaliser notre cœur de métier. Mais ça ne sert pas uniquement qu'à l'Ifremer.
Oui.
Donc, on a des partenaires de recherche un peu partout dans le monde. Donc, pour nous, c'est plus d'un millier d'utilisateurs répartis à travers le monde.
Oui, c'est ça.
Ils utilisent plus de centaines d'applications.
C'est ça, en termes de d'organisation, c'est que vous avez une cellule d'ingénieurs qui sont dédiés à l'analyse de ces datas. Et c'est ces ingénieurs-là, d'Ifremer notamment, qui vont accompagner les chercheurs un peu partout, voilà, en Europe, dans le monde, en France, pour analyser un peu tout cet univers de la mer.
Exactement. Un des rôles d'Ifremer, c'est d'offrir de la donnée publiquement à propos des océans. Donc, on accompagne tous les gens qui veulent pouvoir télécharger ces données-là, mais également venir sur nos infrastructures pour l'utiliser. C'est des données qui sont massives. Mm-hmm. Présentement, on parle de 15 pétaoctets, mais nos nouvelles infrastructures vont nous permettre d'accueillir à terme 70 pétaoctets.
Oui, donc on est en millions, enfin, c'est des millions de gigaoctets. Hein, c'est ça.
Oui, si on prend des téléphones portables, ça représente peut-être 125 000 téléphones portables.
Oui, qui pourraient être utilisés. Et j'imagine que, en plus, les chercheurs qui travaillent avec vous, en dehors de l'Ifremer, c'est tous les domaines. Ça peut être la pharmacie, ça peut être même dans l'alimentation, ça peut être évidemment la recherche, l'armée, tous les secteurs sont concernés
ce sont
aujourd'hui.
Des partenaires, mais ça reste toujours autour de la thématique des océans.
Oui.
C'est notre critère premier. On est un mésocentre thématique. C'est ce qui nous différencie peut-être un petit peu d'autres centres. Mm-hmm. Et la volumétrie importante de données qu'on conserve en relation aux océans nous permet justement de nous différencier d'autres.
Parce que c'est ça qui est important, je disais. Observation de l'océan par satellite, cartographie des fonds marins par des navires océanographiques, les mesures physico-chimiques, images collectées par les engins, les observatoires sous-marins, les relevés des bouées instrumentées, des flotteurs, des signalements par les réseaux d'observateurs. Enfin, tout ça, ça fait des données. En plus, données structurées, données non structurées, ça va pouvoir être un message un jour d'un marin pêcheur qui a vu un phénomène qui va vous donner ça, mais en langage non structuré. Donc, il faut être capable d'analyser tout ça.
Les plus vieilles données qu'on abrite sont des données qui datent du début du 20e siècle et qui sont des données de bouteilles jetées à la mer pour évaluer les dérives des courants marins. Et donc, maintenant, l'IA, les grands modèles de langage vont nous permettre justement de faire ces études multimodales, donc d'analyser différents types de données.
Mm-hmm.
Donc, de pouvoir combiner des données provenant d'images satellites avec des données de bouées dérivantes qui vont nous permettre d'aller chercher une information fine que peut-être, du point de vue physique, on n'arrive pas encore à expliquer, mais que les modèles d'IA vont nous permettre de mettre de l'avant.
Benoît Morin, pour attirer justement davantage, je disais tout à l'heure, dans l'espace, on a des applications, on va écouter Mars, pour nous, grand public, on va écouter Mars, on va se connecter à la station spatiale et puis on va voir des images de la Terre. Vous pourriez aussi développer quelques applications grand public pour voir un peu l'état de nos océans, ce genre de choses?
Il y a déjà quelques applications qui sont en place et qui permettent, par exemple, de faire de la classification d'espèces marines. Donc, on met à disposition des images et les utilisateurs peuvent identifier les espèces, ce qui permet par la suite au modèle d'IA de se raffiner et de pouvoir obtenir de meilleurs résultats en classification.
Et puis on rappelle, tout ça est mis aussi avec des partenaires industriels, avec comme NetApp, comme IBM autour de tout ça. Merci Benoît Morin d'être venu nous parler de tout ça. Je rappelle, vous êtes responsable des infrastructures HPC, donc supercalculateur à Ifremer, donc qui modernise DataArmor, c'est son supercalculateur. Bientôt, enfin voilà, 10 pétaoctets aujourd'hui, ce sera 60 pétaoctets et déjà 462 teraflops aujourd'hui. Donc merci d'être venu nous parler de tout ça et cette analyse des océans qui nous intéresse évidemment. Voilà, l'émission se termine. On se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, les replays, les podcasts, n'hésitez pas. Mais BFM Business, ça continue, c'est tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.